Bonjour, bienvenue dans Politique. Aujourd'hui, profession eurodéputé. Bonjour Père Vange Berès.
Bonjour.
Vous êtes une femme politique française, membre du Parti Socialiste. Vous avez été députée européenne pendant 25 ans, de 1994 à 2019. Alors Brexit oblige, tous n'iront pas au bout de leur mandat, mais à partir de mardi, c'est la rentrée pour les eurodéputés, élus il y a un mois. Séance constitutive du nouveau Parlement européen et c'est reparti pour 5 ans. Alors qui succédera à Antonio Tajani? Qui ça? Antonio Tajani, l'actuel président italien du Parlement européen. L'un des drames de cette assemblée que de souffrir d'un manque d'incarnation et de notoriété. Faire le choix d'être eurodéputé, c'est souvent accepter de vivre à l'écart du monde médiatico-politique, en tout cas pour les Français. La fonction ne manque pourtant pas d'attrait. Depuis sa création, le Parlement européen n'a cessé de renforcer ses pouvoirs. C'est lui qui va élire le prochain président de la Commission européenne, avec la possibilité de censurer par la suite cette même commission. Il vote le budget et peut donc le retoquer. Et s'il n'a pas la maîtrise de l'initiative législative, le Parlement a tout de même marqué les esprits ces dernières années à travers notamment le vote de la directive sur les droits d'auteur ou encore sur la question des données personnelles avec le RGPD. Alors toutes ces évolutions, vous les avez vécues de l'intérieur. Profession eurodéputée, c'est donc le thème de ce tout dernier numéro de la saison de Politique en votre compagnie, Père Vange Berès. Alors je le disais, 5 mandats d'eurodéputé pendant 25 ans. Pourquoi est-ce que vous avez renoncé à en faire un 6e?
25 ans, vous savez, c'est un quart du siècle européen, c'est beaucoup. Vous avez dit profession eurodéputée. C'est vrai que si on fait 25 ans, c'est qu'on a un peu professionnalisé son approche. En même temps, ça reste un mandat. Et je pense qu'il faut concevoir cette fonction comme un mandat plutôt que comme une profession, même s'il faut l'exercer de manière très professionnelle. Et je pense que en 25 ans, j'avais donné au fond au Parlement européen et à la représentation des socialistes français au Parlement européen ce que j'avais à apporter. Je ne voulais pas faire le mandat de trop.
Vous avez quand même pas un petit pincement au cœur là au moment où certains de vos anciens collègues vont faire leur rentrée au Parlement
Absolument
européen.
Absolument aucun. J'en accompagne un certain nombre avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humilité d'une certaine manière, mais avec la conviction que quelqu'un qui a eu la chance de 5 fois avoir la confiance à la fois de son parti et des électeurs pour les représenter doit transmettre. Donc c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Absolument aucun regret.
Bon, alors on va parler un petit peu de ce qui va se passer malgré tout pour ces nouveaux eurodéputés qui, pour la première session, vont devoir élire le président du Parlement européen. La deuxième session, qui sera sans doute encore plus observée, autre élection, celle du président ou de la présidente de la Commission européenne, si tant est que les États membres réussissent à se mettre d'accord sur les modalités des candidatures, ça n'est pas gagné.
Moi, j'étais favorable à un processus pleinement démocratique, c'est-à-dire on a des listes européennes avec des têtes de liste, mais qui sont les mêmes à travers l'Europe, et des vrais candidats européens. Le choix n'a pas été fait par les partis, d'ailleurs, européens, en place, et ils ont préféré résister, rester à des élections strictement nationales. Et donc, ce qu'on appelle les Spitzenkandidat sont une forme de fiction européenne que, d'ailleurs, personne ne connaît dans nos pays, il faut bien le dire. On testerait aujourd'hui les Spitzenkandidat. On ne saurait pas dire, il n'est pas une légitimité démocratique européenne. Donc je pense qu'il faut sortir de ce piège et prendre nos responsabilités en lien avec le Parlement européen. Nous avons des noms à proposer. Ils doivent d'abord être cohérents avec cette ambition. Donc ça doit être des femmes et des hommes qui ont les compétences et l'expérience, qui sont en soutien justement de ces priorités que nous portons et qui seront acceptables ensuite par le Parlement qui aura à voter.
Bon, Père Vange Berès, vous avez reconnu évidemment Emmanuel Macron, c'était le 20 juin dernier. Est-ce que vous êtes d'accord avec son approche pour la désignation du successeur, de la successeur de Jean-Claude Juncker?
Moi, j'ai soutenu au Parlement européen l'idée des listes transnationales. C'est une proposition que j'ai soutenue quasiment depuis 25 ans et qui a été débattue sous différentes formes depuis très longtemps. Est-ce que ça suffit à assurer qu'on n'a pas un problème de représentation des différentes nationalités pour être sûr d'avoir une dynamique européenne qui est construite autour de l'unité dans la diversité, j'en suis pas certaine. Dire que la procédure des Spitzenkandidat est une procédure qui conduit à une nationalisation du processus, ça me paraît un peu excessif. Parce que la dernière fois, on a vu qu'on a un Spitzenkandidat qui a été finalement imposé par le Parlement européen à la chancelière Merkel, qui n'en voulait pas, avec le soutien du président Hollande. Et on ne peut pas dire que là, il s'agit d'une question de nationalité. En l'occurrence, le problème, je crois, auquel on est confronté, et sur cet aspect-là, je pense que le président Macron a raison, c'est que la procédure à l'intérieur du Parti populaire européen, le PPE, de la droite conservatrice européenne, a conduit à une sélection qui n'est pas bonne. Parce que le candidat qui a été sélectionné n'a pas les compétences, les qualités pour être président de la Commission. Il n'a jamais été ministre, jamais été membre du Conseil. Il nous considère comme des mauvais élèves de l'Europe. Donc tout ça ne fait pas un très bon.
Puisqu'il est allemand. Est-ce que tous ces atermoiements...
Non, mais c'est pas parce qu'il est allemand.
Non, je dis il nous considère comme les mauvais élèves de l'Europe.
Mais certains Allemands, enfin il y a d'autres Allemands. Si la question devient une question de nationalité, il y a d'autres Allemands...
Manifestement, ça l'est quand même beaucoup. On voit que les Allemands et que Angela Merkel
Le numéro 2 du gouvernement allemand, M. Altmaier, Mme Ursula von der Leyen, tout ça ferait des très bons candidats. S'il faut... absolument désigner un Allemand. Mais en l'occurrence, il y a un problème sur la personne que le PPE a mis en place.
Est-ce qu'en tout cas pour vous, Père Vange Berès, le risque c'est que ces atermoiements finissent par affaiblir peut-être cette future présidence de la Commission européenne?
Ça serait un mauvais signal, parce que je crois que vraiment on est dans un contexte pas uniquement européen, avec la montée ou la persistance d'une forte présence d'eurosceptiques, mais aussi un contexte international où on a absolument besoin d'une voix forte de l'Europe. Il n'y a pas de voix forte de l'Europe sans Commission forte. Et donc la question de cette interaction entre les enjeux intérieurs et les enjeux extérieurs est absolument essentielle. Et le risque, effectivement, si tous les ceux qui étaient en tête de liste pour être président de la Commission, finalement, sont écartés dans les discussions entre Osaka et Bruxelles, quand les principaux acteurs vont se rencontrer dans les coulisses entre la fin du G20 et le début du sommet à Bruxelles le 30, c'est qu'on arrive en deuxième catégorie, si j'ose dire. Bon, parfois, il y a des bonnes surprises, mais...
Est-ce que ça ne serait pas l'occasion, d'ailleurs, si cette Commission européenne est un peu affaiblie, pour le Parlement européen, par un jeu, on va dire, de rééquilibrage, d'avoir davantage de pouvoir, même si les résultats des dernières élections européennes plaident plutôt pour le contraire, puisqu'il y a un tel éparpillement des voix qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression que le Parlement, lui aussi, risque d'être un peu affaibli.
Alors... Le Parlement européen, pour être fort, a besoin d'une commission forte, parce que l'initiative législative relève de la Commission européenne, et s'il n'y a pas de bonne proposition qui vient de la Commission, il n'y a pas de Parlement fort. Le Parlement européen sortant, donc la 8e législature, a fait la démonstration qu'il savait enrichir les propositions de la Commission et être plus allant, y compris sur tel ou tel thème, que la Commission européenne elle-même. Et c'est utile. Dans sa composition actuelle, vous savez qu'il y a des négociations qui ont été ouvertes entre ce qu'on appelle les quatre premiers groupes, hein, PPE, les socialistes et démocrates, les libéraux et les verts, pour essayer de voir qu'est-ce que pourrait être une plateforme commune. Donc il y a la conscience quand même qu'au-delà de l'éparpillement, il faut pouvoir, sur tel ou tel thème, avoir une voix forte du Parlement européen. Mais je ne pense pas que l'intérêt du Parlement soit un président de la Commission faible.
Alors je le disais en début de cette émission, Père Vange Berès, 25 années de mandat au Parlement européen, avec un poids politique qui s'est renforcé. Il n'y a pas très longtemps, vous faisiez le bilan justement de ces 25 ans et vous disiez notamment que pour vous, la première pierre de la construction des pouvoirs réels du Parlement européen, c'est 1992 et la campagne pour Maastricht. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui change à ce moment-là dans les pouvoirs qui sont ceux du Parlement?
C'est un petit peu avant, parce que avec l'acte unique, il y a le début de la procédure de codécision, c'est-à-dire le moment où le Parlement européen devient un vrai législateur et où le pouvoir de décision se partage entre le Conseil où sont représentés les États membres et le Parlement européen où sont représentés les citoyens. Et la réalité du pouvoir, elle est dans l'exercice de cette fonction législative.
Donc codécision avec la conquête budgétaire, là aussi je reprends vos termes, et puis aussi cette capacité à s'opposer au Conseil, à ne pas voter le budget, et vous en faites une sorte d'équivalent, alors un peu lointain, mais de ce que peut faire le Congrès américain. J'étais assez surpris par cette comparaison, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, cette comparaison entre Congrès américain et Parlement européen, Père Vangeberès.
Oui, au-delà du pouvoir budgétaire, qui n'est pas toujours exercé jusqu'au bout, hein, parce que la logique européenne fait que très souvent, on brandit des menaces et puis finalement, on avale telle ou telle couleuvre pour ne pas provoquer une crise, puisqu'il y a déjà tellement de crises, que est-ce que le Parlement européen, qui par nature essaye de faire fonctionner l'Europe, peut lui-même provoquer une crise? Il l'a fait une fois avec Santerre, au fond, le prix de la crise est cher. Mais pourquoi est-ce que je compare le Parlement européen au Congrès américain? Parce qu'en réalité, d'abord, il y a une très grande liberté des parlementaires. Et il y a l'obligation de construire des passerelles qui ne répondent pas du tout à la logique de ce qui se passe dans tel ou tel parlement national. C'est vrai évidemment du parlement français, mais c'est aussi vrai de régimes plus parlementaires qui existent en Europe. Et trop souvent, il y a l'idée de comparer le Parlement européen à ce qu'on connaît dans son propre État membre. Et c'est une fausse route pour comprendre l'intérêt, le caractère excitant et la réalité du pouvoir que j'ai exercé pendant 25 ans.
Alors, vous avez évoqué, Père Vangeberès, cette crise avec la commission qui était présidée à l'époque par Jacques Santer. Ça se passe en 1999. Le Parlement européen menace de censurer cette commission. La menace n'ira pas jusqu'au bout puisque la commission va démissionner. C'est un moment dont se souvient une de vos anciennes collègues, eurodéputée et qui fut présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine.
Renverser la commission, c'était quand même assez exaltant. Et évidemment, à partir du moment, bien sûr, où nous agissions d'une façon maîtrisée, il fallait faire très très attention. Chacun avait bien conscience que le Parlement européen était en train de conquérir ses lettres de noblesse politique. Parce que même si la codécision, comme je vous l'ai dit, a considérablement renforcé, disons que ça n'était pas apparu. Et notamment, ça n'était pas apparu politiquement. Bon, ça restait toujours un peu de la cuisine, avec des textes très techniques. Voilà, une emprise sur des textes très techniques. Tandis que là, le geste politique de censurer la Commission, possibilité que nous avions d'ailleurs depuis des années, mais dont nous n'avions jamais osé nous servir, c'était quelque chose qui aurait été impensable il y a quelques années. Et ça montrait que le Parlement européen avait atteint une maturité politique tout à fait extraordinaire.
Père Vangeberès, à cette époque, vous êtes aussi eurodéputé. Est-ce que vous partagez cette exaltation dont parle Nicole Fontaine?
Oui, pour un Parlement, de conquérir des pouvoirs, c'est pas un objectif en soi, mais c'est quand même des étapes importantes de la construction institutionnelle. Or, un Parlement, c'est quand même la représentation de la démocratie. Ce sont des étapes majeures. Je partage tout à fait l'analyse de Nicole Fontaine, avec qui j'ai eu le plaisir de coopérer pendant de nombreuses années. Simplement, ce qu'il faut regarder, c'est qu'à la suite de cette crise provoquée par le Parlement européen, il y a eu une période de glaciation, d'une certaine manière, entre la Commission et le Parlement européen. La Commission était naturellement habituée à ce que le Parlement européen, dans un plaidoyer pro-européen, avale tout ce que la Commission proposait. Et là, tout d'un coup, il y a un obstacle. Et du coup, la Commission s'est beaucoup méfiée du Parlement européen.
Ça veut dire qu'il faut aussi, pour les eurodéputés, savoir ne pas aller trop loin dans l'exercice de leur pouvoir,
non,
pour
parce
qu'ils
que
puissent quand même les conserver.
Ça n'a pas empêché le Parlement européen de construire son rapport de force. Mais ça a gêné le pouvoir d'initiative de la Commission. La Commission n'a plus osé, à ce moment-là, s'appuyer sur cette dynamique entre le Parlement et la Commission.
Vous parlez de rapport de force, pardonnez-moi, Père Vangeberès, mais c'est un rapport de force qui est quand même très déséquilibré. J'évoquais en début d'émission le fait que le Parlement n'a pas l'initiative des lois. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent.
Oui. C'est une ancienne.
C'est pas vrai?
C'est partiellement faux. Ah. C'est partiellement faux. Bon, d'abord, le pouvoir d'initiative dans notre pays, il est relatif, hein. Je veux dire, quand il y a une proposition de loi qui passe, les projets étant présentés par les gouvernements et les propositions par les parlementaires, c'est que le gouvernement le veut bien et le tolère. Donc, nous ne sommes pas le pays le plus exemplaire du point de vue de l'initiative législative. Et moi, j'ai connu des textes, y compris le dernier sur lequel j'étais rapporteur, où la Commission n'avait absolument pas abordé un champ de la législation et où, d'une certaine manière, j'ai fait un cavalier législatif, c'est-à-dire que j'ai introduit quelque chose qui n'avait rien à voir avec la proposition de la Commission et qui a été intégré dans la législation et qui est aujourd'hui salué comme une avancée considérable.
C'était sur quel sujet ?
Oh, c'est un sujet forcément un tout petit peu technique, mais c'est la façon dont on protège des souscripteurs d'assurance qui souscrivent. Vous savez qu'en France, on a eu ce problème de manière assez pointue, notamment dans le domaine de la construction, avec des compagnies d'assurance qui offraient des assurances à bas prix parce qu'elles étaient installées en dehors du périmètre français, mais du coup ne respectaient pas la législation française en matière de protection des droits des consommateurs. Et donc la question est de savoir comment, dans ce cas-là, l'autorité européenne peut interpeller les différentes parties pour assurer une protection des consommateurs.
Mais alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là, Pierre Vengeberès, quand on est eurodéputé, pour promouvoir ce type de disposition, ce type de législation? Autre reproche, là aussi, c'est encore une autre ancienne qui est adressée aux institutions européennes et donc notamment au Parlement européen, c'est-à-dire d'être beaucoup sur des textes techniques, mais qui ne concernent pas directement les citoyens européens, même si ça change peut-être depuis
quelque
temps.
L'exemple que je viens de vous donner de français, mais ça n'est pas arrivé uniquement en France, c'est aussi arrivé par exemple en Bulgarie ou dans d'autres pays de l'Union, de personnes qui se retrouvent tout d'un coup sans assurance parce que la compagnie auprès de laquelle ils se sont assurés a fait faillite. Je pense que c'est un sujet auquel les Français sont sensibles. Et puis, vous savez, je trouve que dans le Parlement qui vient de s'achever, regardez les législations qui ont été adoptées et que finalement, je crois, les Français connaissent, même si les médias et les partis politiques en France n'en parlent pas assez. Vous avez parlé de la directive droit d'auteur. C'est une magnifique législation. Il y a encore beaucoup de travail à faire derrière. C'est une pierre de principe qui a été posée. Mais c'est une petite révolution conceptuelle. Comment est-ce qu'on protège la création à l'heure du numérique sans défavoriser les jeunes qui peuvent accéder comme ça à une forme de notoriété? Et quand le Parlement européen, par exemple, renforce les interdictions d'émissions de CO2, par les temps qui courent, je pense que tous les Français sont conscients de l'importance de cette initiative qui vient du niveau européen. Ou lorsqu'on interdit l'usage unique de plastique, je pense que ce sont des progrès importants.
Et alors, j'ai justement l'impression qu'à travers ces deux cas que vous venez de citer, la directive droit d'auteur votée par le Parlement européen, puis l'interdiction des plastiques à usage unique, là il y a eu un petit changement, c'est-à-dire on a identifié la source de ces votes comme étant le Parlement européen. Est-ce que, à votre avis, c'est la nature des décisions qui fait que on repère davantage ce travail des eurodéputés, Pierre Vengeberès, ou bien est-ce que c'est aussi peut-être une autre façon de promouvoir ce type de décision?
Non, je pense que c'est une évolution de la législation européenne. Il y a aussi un autre exemple quand même que tous nos auditeurs, je pense, ont en tête, qui est la fameuse directive Bolkestein, lorsqu'il y avait une volonté d'ouvrir les services à la concurrence de manière transfrontière. Mais dans l'évolution de la législation européenne, on est aujourd'hui en train d'aborder non pas les bases, la structure, l'architecture de la construction du marché intérieur, mais on est dans une nouvelle vague qui est une vague qui est très proche de préoccupations des citoyens qui ne s'expriment pas forcément dans la politique nationale ou pas suffisamment toujours et qui trouvent un écho à l'échelle européenne. C'est en ce sens que la politique et les décisions qui sont menées au Parlement européen viennent en écho aux préoccupations des citoyens. Et d'ailleurs, les décisions que nous prenons ne sont possibles que parce qu'il y a aussi la montée en puissance de cette opinion publique européenne qui se manifeste dans beaucoup de pays.
Alors, pour préparer cette émission, Pierre Vengeberès, on vous a demandé quel était peut-être votre plus grand regret au terme de ces 25 années de mandat d'eurodéputé. Vous avez dit « Je pleure l'inexistence d'un budget européen ».
Ah oui, ça c'est certain.
C'est un sujet sur lequel, en plus, vous avez beaucoup travaillé.
Beaucoup travaillé. Vous savez que le Parlement européen, en 1998, adopte une résolution, donc un texte d'initiative pour donner son avis, de 2 pages. À l'époque, c'était très court, pour dire qu'il faut doter la zone euro d'une capacité contracyclique, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir pour aider un pays s'il rentre en difficulté alors qu'il est dans la zone euro. Et nous sommes en 2019 et il n'y a toujours pas de budget de la zone euro. Et ce qui est aujourd'hui sur la table n'est pas un budget de la zone euro. Je pense que on était, dans le précédent mandat, dans une géographie qui, me semble-t-il, aurait dû permettre de déboucher. On avait le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui était l'ancien président de l'Eurogroupe, convaincu qu'il faut un budget de la zone euro, le FMI, la banque, le CDE, la Banque Centrale Européenne avait clairement pris position pour, le président de la République, François Hollande, puis Emmanuel Macron, étaient totalement engagés sur cette question. Au Parlement européen, le commissaire français était en charge de ces questions. Au Parlement européen, j'avais, avec un collègue de la CDU, mis sur la table des propositions qui allaient en ce sens.
La CDU, donc voilà, c'est les démocrates chrétiens allemands. Vous n'y croyez plus aujourd'hui ?
Je crains que l'opportunité soit passée. En tout cas, ce qui est sur la table n'est pas un budget de la zone euro, parce que ça ne permet pas d'intervenir pour soutenir un pays en difficulté. Il n'y a pas de fonction de stabilisation. Il y a une fonction d'investissement qui n'a rien de spécifique à la zone euro, ou de soutien aux réformes structurelles, qui n'est pas ce pour quoi on a besoin d'un budget de la zone euro. Et je crains que dans la phase qui s'ouvre, il y ait cette nouvelle vague très nécessaire, d'actualité, urgente, liée à la transition écologique, qui l'emporte sur l'impératif d'un budget de la zone euro.
Évoquons peut-être un autre regret, Per Vanche-Berès, formulé par un de vos anciens collègues qui lui aussi, en 2019, a choisi de quitter Strasbourg et Bruxelles. Alain Lamassoure, vous avez fait un pot de départ début avril qui a été raconté par le journal Le Monde et qui cite Alain Lamassoure. Per Vanche et moi, nous rêvions d'être commissaires européens, mais il ne vient pas spontanément à l'idée d'un président de la République de promouvoir un eurodéputé à la Commission. Est-ce que vous avez l'impression que les eurodéputés ne sont pas toujours très bien traités par, on va dire, le pouvoir et par la politique nationale? Est-ce que ce serait une spécificité française ou bien est-ce que ça a été le cas et c'est encore le cas de tous vos collègues ou anciens collègues européens?
Non, il y a beaucoup de pays où on vient puiser au Parlement européen les présidents de la République, les premiers ministres, les ministres et les commissaires, dans l'ordre que vous voulez. Mais il y a autant de cas de figure que d'élus, hein, d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'avec Alain Lamassoure, nous partageons ce regret. Ce qui est, dans mon cas, et je pense dans le cas de Alain Lamassoure, c'est que ça arrangeait d'une certaine manière nos partis, qu'on fasse bien notre boulot à Bruxelles et qu'on vienne pas embêter qui que ce soit à Paris. Et puis, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le boulot, donc bon, la case était remplie, nous n'en changeons pas.
Cette façon, peut-être, de pas suffisamment considérer aussi le travail des eurodéputés, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de responsabilité de certains d'entre eux? Je voudrais vous faire écouter un petit extrait d'une conversation téléphonique qui avait été diffusée sur M6, c'était en 2009, vous allez forcément la reconnaître.
Et là, tu sais où je suis? Je suis à ma place, je ne sais pas si tu entends derrière, je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat. Je suis obligée de rester là, de faire la maline, parce qu'il y a juste un peu de presse. Et d'autre part, il y a l'élection de Barroso. Oui, il va être élu, mais il faut que tu... Oui, mais si tu veux, quand tu es à Strasbourg, on voit si tu votes ou pas. Sinon, ça veut dire que tu n'es pas là.
Voilà, Rachida Dati, vous l'avez reconnue, qui était eurodéputée. Alors, elle ne savait évidemment pas qu'elle était enregistrée à ce moment-là. Ce genre de propos, il ne s'agit pas de tout mettre sur le dos de Rachida Dati, mais vous l'avez souvent entendu chez les eurodéputés français. Qu'est-ce que je fais là et quand est-ce que je reviens?
C'est vrai qu'il y a certains ministres, anciens ministres, qui sont là pour je sais pas quoi, pour assurer leur fin de carrière. Je crois pas que ça a été mon cas. Je crois pas que ce soit le cas de la majorité des députés. Moi, j'ai vu une montée en puissance de députés français très investis. Et c'est une bonne chose, notamment dans les jeunes générations. Bon, ce que je regrette peut-être, c'est que sur certaines listes, j'ai vu ce processus se perpétuer avec des candidats qui n'avaient pas brillé par le bilan de leur activité au Parlement européen, mais qui ont été quand même honorés de retourner dans leur siège de parlementaire européen. C'est pas bon pour la France d'une manière globale, hein, parce que la question de stratégie d'influence, c'est un marronnier des rédactions au moment des élections européennes, mais c'est un vrai sujet. Pour ça, il faut avoir des députés qui fassent le taf.
Alors, puisque vous parlez d'influence, Per Vanche-Berès, ça tombe bien, puisqu'il y a un groupe important dans les institutions européennes, et notamment au Parlement, ce sont les lobbyistes, qui témoignent d'ailleurs du fait de leur présence que les eurodéputés ont, bien sûr, un rôle politique. Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour.
Et vous avez interrogé à ce sujet le journaliste Jean Comte.
Oui, qui fait partie du bureau bruxellois de la revue Contexte, une publication spécialisée sur les politiques européennes et françaises. Je lui ai demandé comment les lobbyistes influençaient le travail des eurodéputés, un travail de longue haleine, souvent un peu plus subtil que l'image que l'on peut en avoir.
En général, les bons lobbyistes arrivent relativement tôt dans la procédure. À Bruxelles, la Commission européenne fait une proposition législative. Ensuite, le Parlement européen doit valider sa position sur le texte, amender le texte, et puis ensuite doit négocier avec les États un texte final. Les lobbies seront là tout le temps, dès le début en fait, ils vont essayer d'entrer en contact avec les députés européens, de cibler ceux qui seront actifs sur les dossiers qui eux les intéressent. Ils vont leur parler assez tôt pour leur exposer leur position, leur point de vue. Ils vont les accompagner durant tout le travail, donc quand le texte arrive, voir le texte, ils vont dire là où ils veulent des changements, ils vont proposer éventuellement des amendements ou des pistes pour des amendements. Ils vont essayer de peser sur différents députés qui ne sont pas directement impliqués mais qui ont une influence sur le texte. Et puis ensuite, quand il y aura des négociations avec les États, ils seront aussi très présents. Il ne s'agit pas seulement d'arriver et de donner un amendement tout fait. Il s'agit plutôt d'être aussi proche que possible des députés et de leurs assistants. Et au-delà de juste l'amendement, faire surtout passer des idées. Dire en effet, ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne piste, on pense que c'est bien pour l'économie européenne, que c'est bien pour tel type d'acteurs, que c'est bien pour la France éventuellement, ou pas. L'amendement, c'est un peu seulement la formulation finale.
Et ce travail des lobbyistes est encadré par une contrainte de taille depuis le 31 janvier dernier. Une modification du règlement intérieur du Parlement européen rend désormais obligatoire la publication des rendez-vous des élus responsables des travaux législatifs avec les lobbyistes. Une mesure adoptée de justesse à quatre voix près qui a suscité beaucoup de débats parmi les députés. On peut s'en étonner. N'y a-t-il pas de consensus sur cette notion de transparence ?
La question de ce qu'on appelle l'empreinte législative, ça veut dire avoir la liste pour chaque dossier parlementaire de tous les lobbyistes qui ont été rencontrés. Donc cette question-là n'est pas nouvelle, hein. Ça fait beaucoup d'années à Bruxelles qu'on en parle, qu'on se demande si oui ou non c'est une bonne idée, comment le mettre en place. Beaucoup de députés, notamment la droite, sont assez réticents à ça, parce qu'ils voient un peu ça comme une volonté de contrôler leur travail. À la fin, le député, l'amendement qu'il dépose, c'est lui le député qui le dépose. Et je pense que beaucoup de députés veulent quand même qu'on continue à considérer que ce soit eux les responsables et pas les différents lobbyistes qui peuvent graviter autour. Par ailleurs, ces obligations-là que le Parlement s'est finalement imposées, elles n'existent pas du tout du côté du Conseil, il n'y a absolument aucune transparence. Et donc le Parlement européen, je crois, n'a pas très bien vu pourquoi est-ce que lui devait faire un tel effort alors que le Conseil ne le fait pas. Ce qui a un peu changé les choses, c'est que la Commission européenne a aussi un peu bougé. À partir de 2014-2015, elle a commencé à publier en ligne la liste des lobbyistes que les commissaires européens, leur cabinet et certains hauts fonctionnaires rencontrent. Donc c'est ça avec un peu de retard. Ce n'est pas toujours très précis sur qui exactement a été rencontré et quel était le thème exact. Il y a quand même eu un effort. Et donc je pense que c'est un peu ça qui a fait aussi bouger le Parlement. Mais c'est vrai que c'était un débat très compliqué, hein. Tout le monde n'était pas enthousiaste par rapport à ça. Le service juridique du Parlement européen, il s'est montré que c'était compliqué, on ne peut pas non plus forcer les députés à le faire. Mais ça a été fait finalement. Et c'est plutôt une bonne chose, je pense.
Voilà, Jean Comte, donc journaliste au bureau bruxellois de la revue Contexte.
Une réaction, Père Blanche Bérès.
Non, mais Jean Comte a raison. Raconter comment ceux qu'on appelle les lobbies sont présents au début du processus. En France, on a toujours cette idée que l'administration publique, au fond, incarne l'intérêt général. Mais dans les sociétés complexes, de plus en plus, il y a des procédures de consultation qui sont faites en amont des processus législatifs. Et à la Commission européenne, c'est la règle, puisqu'il n'y a pas de base de départ ou de corpus législatif d'origine, souvent. La méthode d'élaboration, c'est la consultation. Et donc, au stade de la consultation, les lobbies rentrent dans la machine. Et après, ils ne lâchent pas le morceau. Moi, je pense que ce qui a été fait entre le Parlement européen et la Commission est de très bonne facture. J'invite l'ensemble des législateurs à regarder ça de près, s'en inspirer éventuellement. Quant aux lobbies, j'ai l'habitude de dire, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Le très mauvais, c'est quand Monsanto infiltre les groupes d'experts pour empêcher l'interdiction de telle ou telle pratique. Et le bon lobby, bah, c'est celui que j'ai organisé avec d'autres lorsqu'on a inventé Finance Watch pour avoir des contrepoids aux arguments de Goldman Sachs et de quelques autres. Mais c'est aussi ceux qui nous ont permis, par exemple, de gagner sur la directive droit d'auteur. Sur la directive droit d'auteur, on avait deux lobbies, celui qui était pour, celui qui était contre à la fin.
Eh ben merci beaucoup, Père Blanche Bérès, d'avoir participé à cette émission. Dernier épisode de Politique pour cette saison. Une émission préparée par Antoine Dulster, réalisée par Peyrey Legras, avec à la prise de son Jean-Guilain Meige. À 12h45, vous retrouverez Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Je vous donne rendez-vous lundi à 19h pour les rencontres de Pétrarque à Montpellier, qui seront consacrées au retour de la rue. C'est en direct et c'est en public dans la cour du rectorat. Et puis, fin août, pour une nouvelle saison de Politique. Et dans un instant, le journal de 12h30 sur France Culture.